filigrana imprecisa. Um toque de calçada e palavras imensas sussurram olhares precisos. A Divergência FM.
Filigrane imprécis. Poésie, littérature, musique, lignes chaotiques, murmure clamé d'un chant portugais sur Divergence FM. Filigrane imprécis sur Divergence FM, le 93.9, une émission proposée par l'association Casa Amadis, l'association culturelle de langue portugaise de Montpellier. Florent Robin au micro et je suis avec le président de Casa Amadis, comme toutes les semaines maintenant, Tito Livio Santos Mota. Bonjour Tito.
Bonjour.
Alors on a un programme chargé ce midi, comme tous les samedis midi. Là on va commencer par parler un petit peu des activités, de ce qui s'est passé cette semaine à Casa Amadis, à savoir que nous étions présents dans le festival Les Boutographies, le festival OFF, c'est-à-dire que la dernière expo, c'était chez nous, c'était à Casa Amadis, au programme. Et donc c'était le vernissage a eu lieu donc le 22 mai dernier, donc à l'espace Jacques Ier d'Aragon, 117 rue des États Généraux. On était dans la grande salle d'en bas, et ça s'est plutôt bien passé, Tito. Hein.
Oui, je l'ai démonté hier, donc c'est plus la peine de passer.
Voilà. Oui, on a eu à peu près...
Du beau monde, surtout. C'est-à-dire du beau monde dans le sens des gens intéressants et intéressés.
Il y avait des photographes, des gens qui s'intéressaient à la photographie. Donc je rappelle le programme. Je pense que les expos vont peut-être un peu tourner, je ne sais pas encore comment. On va voir ça dimanche, on va en discuter dimanche, mais on va revenir là-dessus. Il y avait donc Vanessa de la Terre qui nous faisait une exposition, qui était présente, qui nous faisait une exposition sur un voyage qu'elle a fait au Brésil. Il y avait bien sûr l'incontournable Ferdinand Fortes, le vice-président de l'association, qui présentait les dernières photos de son travail. Une expo qui évolue avec le temps, ça s'appelle Le Piéton de Montpellier. Et il y avait Fanny Duon-Hu, qui est une vieille amie de Casa Amadis et qui n'était pas présente puisqu'elle était encore à Paris, mais son travail nous parlait de son voyage qu'elle avait fait au Vietnam. Voilà donc une soirée qui a été plutôt riche. On n'a pas arrêté de tchatcher, Tito et moi, avec tout le monde. Ferdinand n'a pas arrêté de tchatcher non plus. Je pense qu'on reviendra.
On a bien bu aussi.
Il y avait du vin vert, des rosés d'ailleurs, je me souviens. C'était une première, je n'avais jamais goûté ça. Une curiosité.
Moi non plus.
Et donc, je pense que l'année prochaine, pour les boutographies off, on sera de retour. Alors, à signaler que la clôture des boutographies du festival off, ça sera dimanche, donc demain, à 20h, au Baloir.
Il faudra venir. Vous aurez... C'est un peu la fortune du pot. Et il y aura, par contre, une rétrospective du travail des artistes qui ont été présents aux boutographies off. Donc... C'est
l'opportunité. Et les artistes seront là pour la plupart. Voilà. On va faire une petite pause musicale et avec Tcheka, qui est un artiste du Cap-Vert, auquel on a déjà consacré une émission il y a déjà pas mal de temps. Et quand j'ai retrouvé le disque dans ma discothèque hier, je me suis dit, mais tiens, c'est pas mal ça. Je l'ai réécouté et on va passer la matinée avec lui.
Cada bonuça juzente, cada fica canhota. E bom menina, forte e bonita. Oi, amor, custa já nota. Oi, amor, custa bonita. E bola! E aí, bola, quem que beijava? Cada bonuça juzente queda, fiz a canhota. Cada bonuça juzente queda, fiz a canhota. Cada bonuça juzente queda.
Bom menina forte e bonita, oi amor que seja nota, oi amor que esteja bonita. Amor que tem nem um beijo, beijo de desejo, beijo de prazer. E bom menina, e bom nhanhá. Amor que tem nem um beijo, beijo de prazer. E aí, bola, tem que beijar. Queda, fisca canhota. Queda bonuça, juzente queda. É bom, nhanhá. É bom, menina forte e gostosa. Oi, amor, que está bonita. Oi, amor, que esteja nota. Para amor, que tenha um beijo. É bom, menina forte e gostosa. Oi, amor, que está bonita. Oi, amor, que esteja nota. Ei!
Filigrane imprécis sur Divergence FM, le 93.9. Ce qu'on vient d'entendre, c'était Tcheka. C'est un petit clin d'œil à notre ami Ferdinand, puisque c'est un artiste capverdien. Alors Tito, avant de parler du festival qui a lieu à Lisbonne et Porto, dont on parle depuis plusieurs semaines maintenant, bah, tu as été hier à la présentation de saison du Théâtre d'Eau.
Le Théâtre d'Eau nous a invités en tant que structure relais et on en est très, très content. Je crois qu'on va vraiment faire des choses cette année. J'ai déjà en vue deux, trois petites choses qu'on pourrait faire pour amener notre public vers le Théâtre d'Eau et vice-versa, notamment après le festival de Cours, le Festafilm. Je crois qu'à la suite, la semaine suivante, on pense faire venir au moins deux groupes de musiciens dans la foulée et après enchaîner le set peut-être avec une pièce, un travail plutôt au Théâtre d'Eau. Oh ben, voilà. Ça, c'est ce que je pense tout de suite là, mais il y a d'autres choses. Il y a vraiment du travail sur vraiment des très très belles choses. Et on n'a pas pu nous montrer tout, puisque évidemment il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites, qui sont encore en chantier. Mais ce que j'ai vu m'a beaucoup emballé et il y a des choses magnifiques. Magnifique.
Alors, un partenariat de Casa Amadis avec le Théâtre d'Eau. Déjà, que Divergence, nous sommes en partenaire, nous sommes partenaires du Théâtre d'Eau. Voilà. Donc, des chantiers encore, c'était tout nouveau, tout chaud, c'était encore à explorer. Alors, on va parler maintenant d'un autre festival, un festival dont on a commencé à parler ces dernières semaines. Un festival qui te tient à cœur, Tito, puisque tu les as rencontrés avant le festival, puisque tu étais au Portugal.
J'étais à la présentation de saison, mais à la présentation du festival, mais j'étais là comme les autres personnes.
Comme spectateur.
Pas en tant qu'invité, ni rien du tout. Simplement, j'ai rencontré par contre les gens de l'association Prado, qui est une structure qui est chargée cette année d'organiser une radio éphémère et ils ont eu la gentillesse de vouloir collaborer avec Divergence à travers Filigrane Imprécis, entre autres. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de Divergence ou sur le site de Prado, donc vous aurez les liens mutuels pour accéder au site les uns des autres.
C'est-à-dire qu'en allant sur le site de Divergence, on peut aller sur le site du festival et en allant sur le site du festival, on peut aller sur le site de Divergence.
C'est pas tout à fait ça, sur la radio du festival.
Qui d'accord,
s'appelle radio du festival. Autoradio d'ailleurs. Mais vous allez sur le site de Divergence et vous aurez le lien pour y aller. Vous pourrez écouter en direct des choses. Alors, tout n'est pas en portugais, hein, rassurez-vous, il y a des choses qui sont en anglais et en français, évidemment, après en version en portugais, puisque ça se passe au Portugal quand même.
N'oublions pas.
Alors nous, on va essayer de rapatrier quelques sons de ce festival. Bon, là, ils sont encore aux prémices du festival. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des chroniques de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui écrit très très bien, qui s'appelle Rita Natal, qu'on a vu ici à Montpellier, notamment dans un travail avec João Fiadel, ici au CCN, et qui était ici en résidence avec lui. Je vais lire surtout ces chroniques sur ce qui s'est passé cette semaine au festival.
On va peut-être rappeler pour commencer, ben, comment s'appelle le festival.
Le festival s'appelle Alcântara. Et Alcântara, c'est un festival. Alcântara, ça veut dire pont en arabe et c'est aussi un quartier de Lisbonne. Alors, d'ailleurs, moi j'ai un texte introductoire que je peux lire, c'est peut-être le plus simple, il dit tout.
Tu viens de le traduire en plus.
Voilà. Alcântara est la continuation de la plateforme Danse na Cidade, Danse dans la ville, fondée en 1993. Danse na Cidade a développé une intense activité de promotion de la danse contemporaine nationale et internationale, aidant à des croisements et au dialogue entre créateurs. Les différentes éditions de son festival, 1993-2004, et projets de collaboration comme le Dançar o que é nosso, Danser ce qui nous appartient, débuté en 1998, ont été les principaux jalons de ce travail. Le changement de nom coïncide en 2005 avec un nouveau souffle pour l'association. Alcântara s'est alors affirmé définitivement comme une structure internationale de référence dans la programmation des arts performatifs. Et l'Alcântara Festival, qui a déjà eu deux éditions, 2006 et 2008, puisque c'est une biennale, s'est consolidé en tant que festival et coproducteur international. Au-delà du Alcântara Festival, des rencontres, des programmes de résidence, des investissements en coproduction nationale et internationale font qu'Alcântara s'affirme comme un agent fondamental de la création artistique contemporaine. Alcântara est également synonyme de transversalité et son travail se complète dans des projets de formation dans les arts qui rendent possible de nouvelles approches à l'art contemporain. L'espace Alcântara, un immeuble cédé par la mairie de Lisbonne, situé dans le quartier historique de Santos, où se passent les Mayas, que tu aimes Mayas, beaucoup. Oui. Voilà.
Célèbre roman des Sainte Kéloche.
Et depuis 2007, un nouveau défi en tant qu'espace de travail, de réflexion et d'approche du public. Appuyé par la Direction générale des arts, ministère de la Culture, Alcântara travaille également en collaboration avec d'autres structures nationales et internationales pour garantir de meilleures conditions de production, de présentation et de visibilité pour les créateurs. À la fin mai, des artistes des quatre coins du monde se dirigent au Portugal pour occuper divers espaces à Lisbonne et Porto. du 21 mai au 9 juin, donc c'est commencé. Alcântara Festival accueille environ 30 performances de danse, de théâtre et de tout ce qui peut se trouver entre eux. Des artistes venus d'Argentine, d'Australie, du Canada, de Croatie, de Suisse, d'Égypte, des États-Unis, de France, du Portugal, de Belgique, du Japon, de Chine, des Pays-Bas, du Brésil, d'Espagne, d'Hongrie, de la Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, de Danemark, de l'Équateur, de la Grèce, d'Italie, entre autres. Ils apportent leur histoire locale ou globale, sur l'universel et le particulier, le passé et le futur, des légendes de beauté et sur les troubles dans un monde en rapide changement. Cependant, ils ont quelque chose en commun, le désir d'entamer un dialogue avec le spectateur dans l'effort de comprendre ces temps déconcertants et atteindre peut-être quelques réponses. Ou plus probablement refouler nos questions ou éventuellement augmenter la confusion. 20 jours de performances novatrices et stimulantes qui iront déstabiliser nos perspectives. Le point de ralliement et le cœur du Alcântara Festival, il se trouve dans l'espace Alcântara, il y a pour objectif de devenir un lieu où artistes et publics puissent se rencontrer, parler, manger, boire, écouter de la musique, ou lire un livre sous un arbre.
Alors ça, c'était donc le texte de présentation du festival.
Là, j'aime surtout la dernière partie.
Oui, ça donne tout à fait envie d'y aller. Exactement. Et avant une pause musicale, on va peut-être lire un autre texte.
C'est un texte donc, de Rita Natal qui écrivait ça avant, en amont du festival.
Elle a une sacrée plume, quand même, je trouve.
Oui, oui, oui. Et puis, c'est drôle parce qu'elle a la même, au départ la même formation que moi. Donc, elle a fait anthropologie à l'Université de Lisbonne. Nouvelle de Lisbonne, mais simplement, elle est née l'année où j'ai terminé, moi.
Alors, no comment.
Alors, elle s'est trouvé un titre, on lui a trouvé un titre assez rigolo, c'est « Accompagnatrice de luxe ». Alors, il y a des festivals qui avancent, des festivals qui se promènent, des festivals qui célèbrent des événements humains. Il y a des festivals à la curiosité compulsive, des festivals pour passer le temps, des festivals pour inventer l'espace, des festivals pour désirer faire descendre la ville à des durées inusitées. Et quand on essaie de la combustion est presque instantanée. Il y a des portes de théâtre qui s'ouvrent, des portes de fondation, des jardins d'hiver, de musées, de cinéma, de centres de jour, de centres de jour pendant la nuit. Il y a des scènes grandes et petites, des parcours, des escaliers, des passages, des impasses avec trop de sorties, des pistes de danse, des balles. Il y a des questionnaires mentaux. Marquez une croix devant le spectacle que vous souhaitez voir. Il y a des parterres avec des sièges en velours rouge, des chaises noires, marron, grise, beige, des chaises en plastique transparent ou alors un tas de gens debout. Il y a des gens voulant dire des choses tout en faisant des choses et des gens voulant dire des choses tout en leur prêtant attention. Il y a des filtres de couleurs, des projecteurs, des sunlight, des ampoules de 40 watts, des lanternes ou simplement la lumière du soleil. Il y a de la bande son de musiciens, des drapeaux sonores de silence, des projets de radio pirates à la façon des détectives sonores. Il y a des billetteries avec des fils pour acheter des billets, des entrées libres à des fêtes et buffets de fin de semaine, des gens qui se retrouvent pour dîner, des gens qui se retrouvent pour danser après les shows. Il y a des groupes d'observateurs invités pour suivre le festival comme des dames d'honneur. Il y a des brunchs avec des conversations du monde, des lancements de livres, des conférences. Et au milieu de tout cela, il y a encore qui prennent la caméra et le stylo pour écrire. Dans ce espace d'accompagnement de luxe, un clic sur la souris de l'ordinateur sera suffisant pour qu'ils entrent dans une mise à jour du festival avec des images, des textes et des vidéos. Il s'agit d'une expérience personnalisée de communication et de documentation sans présentation, sans prétention muséologique. Lieu affait à des effets de rythme, de sensations, d'erreurs, de parcours, d'improvisation et de rencontres inusitées. Critique des spectacles dissoute dans un décor de commentaires et impressions, visite guidée à des spectacles, bavardée sur les terrasses des théâtres avec quelques-uns des artistes programmés, entrevue caméra à la main, des répétitions, journal de téléportation de la matière à travers l'espace et temps. Aujourd'hui, c'est le 14 mai. Le festival Alcântara 2010 commence dans une semaine et nous présente un périple d'expériences de latitude et longitude trop diverses pour que je puisse vouloir cartographier des origines. Assise devant le bureau d'une chambre d'hôtel dans les Asturies, je feuillette le programme du festival et je suis de façon aléatoire les titres des spectacles. Si une fenêtre s'ouvrait, et après... comme rouler joyeusement dans un vide extérieur, et après un seul mi, et après oura, ar, apre, ir, bou, poum, you've changed. Hard to be a god. House without a maid. Evaporated landscapes. World of interiors. Giant city. Je ferme le programme. Parfois, on dirait qu'il suffit de mettre les choses côté à côté pour trouver des résonances. On trouve les lentilles qu'il faut pour voir un étrange poème dans les événements. Suivre ce festival de près sera aussi ça, un rythme des yeux et des oreilles. Voyons comment ça se passe.
Alors ça, c'était donc l'accompagnatrice de luxe. Tu peux nous rappeler son nom ?
Rita Natalio.
Voilà, une présentation assez drôle. On va faire une petite pause et puis on se retrouve juste après Tcheka.
Thank you.
Tcheka, Tcheka sur Filigrane Apprécie, sur Divergence FM le 93.9. Ce jeune artiste capverdien qui va nous accompagner musicalement toute cette matinée. Nous parlons, Filigrane Apprécie, d'un festival, l'Alcantara Festival, qui a lieu maintenant, qui a commencé donc le 21 mai, et avec lequel Divergence est en partenariat. Alors on a commencé à lire un petit peu les présentations, la présentation officielle du festival, la présentation de l'accompagnatrice de luxe, comme on l'a nommée.
Et l'accompagnatrice de luxe, là, elle va nous donner un dialogue avec le metteur en scène de Radio Muezzin. Radio Muezzin qu'on connaît ici à Montpellier puisqu'il est passé à la Vignette au théâtre de l'université Paul Valéry.
Et on les avait reçus à Divergence à cette occasion.
Oui, et ça a fait un succès absolument phénoménal à Montpellier. On ne parlait que de ça. Et donc, c'est un dialogue entre elles et donc Stéphane Keiji.
Alors, tu vas faire l'intervieweuse. Oui, et
moi,
puis
je fais Rita Natal, d'accord.
D'accord. Ouais,
qui es-tu ?
Je suis Stéphane Keiji, l'un des trois directeurs qui travaille dans la compagnie Rimini Protocol. Nous sommes depuis 6 ans à Berlin en résidence artistique au Théâtre O. Nous essayons de transformer le théâtre en un espace de communication.
Quel âge as-tu ?
37.
Et c'est ta première fois au Portugal ?
Non, je viens fréquemment ici.
Pourrais-tu me parler un peu du travail Radio Muezzin ?
Radio Muezzin est une œuvre dans laquelle 4 muezzins de différentes origines sociales expriment quelque chose sur eux-mêmes. Ceci avant que leurs fonctions ne disparaissent, car très bientôt, le ministère de la Religion va imposer un système centralisé et une seule voix va se faire entendre à travers des haut-parleurs partout dans la ville. C'est-à-dire ces 4 muezzins et 10 000 autres, qui jusqu'à maintenant avaient pour tâche d'appeler les personnes à la prière à travers la ville, vont devoir se taire. Dans cette pièce, ils nous parlent de leur remplacement par un procédé technique et également de leur vie, de leur famille, sur le temps qu'ils ont passé à l'armée, sur le temps qu'ils ont passé en Arabie Saoudite, où beaucoup d'Égyptiens travaillent.
Comment as-tu choisi ces muezzins ?
J'ai rencontré près de 50 muezzins. J'ai recherché au ministère de la Religion, grâce à des amis, et je suis allé directement aux mosquées expliquer ce que je voulais faire. J'étais surpris quand j'ai appris qu'au début, beaucoup pensaient que l'islam désapprouverait ce projet. Mais au contraire de ce que l'on pensait, les imams avec qui j'ai parlé sur le travail m'ont demandé si le théâtre serait avec des acteurs ou si ce serait de la fiction. Et quand j'ai répondu que ce serait les muezzins eux-mêmes qui parleraient sur leur vie réelle, ils ont approuvé. Car ils considèrent que le théâtre est un lieu valable pour ce type de travail.
Très souvent, ton travail est associé à un label spécifique. On l'appelle théâtre documentaire, biodrame, etc. Et je me souviens, par exemple, de la pièce que tu as présentée à Lisbonne il y a quelques années, Mnemo Park, où là encore, des personnes que l'on appelle des personnes réelles sont sur scène parlant sur leurs propres histoires, dans un paysage de train miniature. Au moment où ces personnes montent sur scène, elles cessent d'être simplement des personnes réelles et deviennent une espèce de spécialiste de leur propre vie. Parle-moi de ce procédé de travail.
Je trouve que dans le théâtre, il est normal de voir des représentations d'acteurs. Des acteurs qui ont à apprendre par cœur un texte ou à prendre une posture pour qu'ils puissent interpréter un rôle. Mais je préfère que le théâtre puisse être un moyen pour que les personnes montrent qui elles sont. Je préfère inviter des personnes qui n'ont rien à voir avec le monde artistique et faire du théâtre une fenêtre sur le monde. Travailler avec les personnes à partir de leur vie et en faire des co-auteurs de la pièce. Pouvoir décider ensemble quelles sont les histoires, quels sont les récits importants pour traiter leur réalité. C'est un processus complexe qui s'approche de l'édition, du journalisme ou même du film documentaire. Cette expérience devient beaucoup plus immédiate car les personnes se retrouvent face à face avec le public. Tandis que devant un écran, tu peux changer de chaîne ou les faire tout simplement disparaître au rythme du zapping.
Dans le cadre de ce travail, quelle serait la différence pour toi entre faire une pièce de théâtre avec un muezzin ou faire un film sur les muezzins ? Quelle en serait la différence essentielle ?
Comme je l'ai déjà dit, le fait qu'il ne soit pas possible de changer de chaîne, d'avoir à partager le même espace pendant 2 heures, de ne pas avoir de portable à côté, de ne pas taper des emails en même temps. C'est une rencontre beaucoup plus directe et donne un certain pouvoir à ces personnes qui sont soudain en face du public. Ils ont la parole dans leur bouche et ne sont pas exposés au processus de montage qui normalement se passe dans le cas des films où les protagonistes ne sont pas présents.
Parlons des limites éthiques du travail. Comment est-ce que tu gères cette question dans ton travail de direction et mise en scène et non et non-acteur dans des projets au caractère autobiographique, assumé et documentaire. Dans le cas des muezzines, où le thème central est leur disparition, comment a été le processus de négociation ?
Ce fut un processus complexe. Parfois, les choses qu'ils voulaient raconter, je les trouvais peu importantes dans la pièce. Par exemple, quand ils voulaient donner des explications sur tel passage du Coran, et je leur disais que je ne voulais pas utiliser le théâtre comme lieu d'enseignement du Coran. D'un autre côté, parfois c'était moi qui demandais un récit sur la famille et eux qui trouvaient qu'il y avait là une certaine invasion de leur espace intime et privé. C'est-à-dire, des deux côtés, il y a eu toujours la nécessité d'arriver à certains compromis. On peut comparer ce processus à celui de quelqu'un qui écrit des discours pour des politiciens. Tout en tenant en considération ce que le politicien veut dire, il faut transformer le discours en fonction de ce qui peut intéresser le public. Dans ce cas, il a été important de penser en fonction d'une certaine dramaturgie et tension. Les histoires sélectionnées contribuent pour une certaine image de kaléidoscope, une image construite mais très réelle de l'Égypte et des personnes.
Tu l'as présenté au Caire ?
Oui, nous l'avons joué une fois, mais après nous avons travaillé dessus pendant 2 semaines à Berlin, avant la première représentation officielle.
Est-ce que tu trouves qu'il y a des différences entre présenter cette pièce dans un contexte islamique et non islamique ?
Oui, c'est très différent. Il y a eu beaucoup de choses que nous avons eu besoin d'ajouter quand nous sommes rentrés à Berlin. Dans des contextes de culture différentes de l'Égypte, les sujets doivent être plus expliqués et contextualisés de façon à les rendre plus clairs pour les personnes de cultures différentes.
Il y avait un côté didactique dans la forme comme la pièce doit être présentée au public, qui n'est pas islamique.
Je ne sais pas si j'utiliserai le mot didactique, mais oui, c'est une forme d'organiser l'information de manière à être plus accessible aux personnes qui n'ont pas grandi à l'école coranique. Radio Muezzin n'est pas une pièce qui prétend enseigner des choses. C'est une pièce pour te faire rencontrer des personnes que, autrement, tu n'aurais pas connues, car ils ne parlent pas ta langue, habitent dans des quartiers où tu n'irais jamais, même quand tu voyages en tant que touriste en Égypte.
Stéphane, je vais te poser une question un peu générale et à laquelle il sera peut-être difficile de répondre en 2 minutes. Nous parlons de plus en plus et un peu partout de la distinction entre le réel et la fiction ou de la diffusion des deux, dilution des deux. Cette séparation traditionnelle a-t-elle encore du sens dans ton travail ?
Je trouve que l'on peut faire des différences chaque fois que l'on en a l'intention. Mais je crois également que personne ne vit dans une séparation rigide entre fiction et réalité. Par exemple, tout présentateur de journal télévisé peut être mis en cause sur la véracité de ses nouvelles. Et c'est cette amplitude entre les deux pôles que nous travaillons. Et c'est important d'ouvrir ce processus et de le rendre plus transparent possible. Voilà, c'était donc la conversation entre Rita Natalio et Stéphane Kaïdji qui a eu lieu, là, la représentation du Radio Muezzin. C'était au Théâtre Municipal de Saint-Luz à Lisbonne le 21 et 22 mai.
Oui, et puis il va à Porto aussi.
Voilà. On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour continuer à parler de ce festival et des spectacles qui s'y déroulent.
Les gens qu'on aime.
Bakezanumpolsinal et les simagna kore payan mijun kanegal mankore el sembimo. Bakeza non vol signal e le simagna core paja il mijun canegal pe vira ma bonito so che corpo stonnerò mio corpo stonnerò gianca pori rossa paja mio sfio sa testura fa sin vira novo go sin da pega mon un terrorio ai 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 ambejo. Sin vira no bugo, sin te pega mun un terroria, ay, 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 ambej. Ey, 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 ambej. Tete di nola, e casa onti, minha festa beijo, fa tutto.
está bello. Fatto un bien. Te di nola. Y es casa onde. Una festa bello.
Filigrane imprécis sur Divergence FM, le 93.9. Nous passons la matinée bien à parler de Alcantara, le festival d'Alcantara qui a lieu maintenant à Lisbonne et Porto.
Vous êtes encore à temps et dure jusqu'au 9.
Tu vas nous parler de quelques spectacles qui ont eu lieu déjà ou dont on a reçu quelques informations.
Bon, en fait, comme beaucoup vont pour Lisbonne et Porto... par exemple, celui de Thiago Rodrigues n'a pas encore eu lieu, alors que celui de Veramente a déjà commencé.
Mmh. Alors celui dont tu vas nous parler maintenant, c'est...
Alors, on va parler de deux spectacles, puisqu'après il y a une conversation transcrite par Rita Natale, de justement rencontre ces deux artistes, donc autant présenter leur spectacle.
Vas-y.
Alors d'abord, commençons par celui qui a déjà commencé. Nous allons sentir le manque de tout ce dont on n'a pas besoin, de Veramente en guests. Alors c'est un texte qu'on a vu ici, hein. C'est un spectacle qu'on a vu à Montpellier Danse l'année dernière et que j'ai vu d'ailleurs avec notre technicien qu'on salue, Manu.
Manu qui nous fait la technique.
On est allés ensemble. Alors, Veramente a distillé cette parade insolite après des mois de lecture, de visionnage, d'écoute, de réflexion, de conversation avec une demi-douzaine de ses amis. Nous allons sentir le manque de tout ce dont on n'a pas besoin, est un jeu d'association, parfois explicite, d'autres fois crypté, ludique ou peu confortable, tangible ou volatile. Il déclenche des réactions variées, mais presque aucune réponse. La définition étymologique du mot « objet » contient l'idée qu'un objet est quelque chose qui se donne à voir, quelque chose qui existe ou qui est là pour être vu. nous allons sentir le manque de tout ce dont on n'a pas besoin, nous montre des objets du monde. Et entre ces objets, celui qui les manipule et le spectateur, il y a un triangle. Une tension qui pousse les marges des idées et des sensations jusqu'à la vibration des symboles. Devant ces objets, les idées sont les chemins vers d'autres idées, et comme dans tous les chemins, il y a des tronçons qui s'ouvrent, qui rétrécissent et qui bifurquent. Nous pouvons les parcourir selon des rythmes et respirations différentes, comme si nos pensées prenaient forme selon la façon dont elles pulsent et se frictionnent. Ce sont des objets du monde, en contact et en court-circuit. Quelque part à mi-chemin entre le côté matériel et le côté éthéré des choses, entre le quotidien et l'onirique, entre le générique et l'exceptionnel, et qui sait, dans ce tour de passe-passe du monde de tous les jours, ce monde d'objets de production, consommation et déchets de grande, à grande échelle, que nous pouvons toucher à l'autre côté des choses. Alors, sur le travail de Thiago Rodrigues, moi j'ai traduit le titre en direct. Hein, « Si on génère la sabrice, ça donne si une fenêtre s'ouvrait hein. ». C'est un texte, donc, c'est un travail qui demande un petit peu d'attention. Que voyons-nous quand nous assistons aux actualités télévisées de 8 heures ? Une proposition de réalité. Une entreprise de journalisme nous dit ce qui est important dans l'espace-temps d'une journée et nous dit que c'est cette réalité, notre réalité. Une réalité où, en règle générale, aucune de nos pensées ou gestes de la journée ne sont enregistrés. Thiago Rodrigues a fait une première ébauche de ce projet qu'il a présenté en solo au Théâtre Maria Matos de Lisbonne en 2009 avec le titre « Un autre jour ». Ayant recours au doublage des voix, il remplaça les mots d'un journal télévisé par d'autres mots, les siens, dans une tentative de raconter une histoire d'une autre journée. Cette première expérience continue d'être le motet de cette production. Remplacer le discours public par l'intime est le point de départ de « Si ma génère la sabrice, si une fenêtre s'ouvrait ». Un spectacle qui prétend être un journal télévisé des nouvelles qui ne font jamais des nouvelles. Partant de là, naît un autre journalisme, à l'échelle humaine d'une scène de théâtre où un regard entre deux acteurs peut avoir la même importance que le phénomène du réchauffement climatique. Le titre du spectacle est né des vers d'Alberto Caeiro, lui-même version publique, de l'intimité de Pessoa. Il n'y a qu'une fenêtre fermée et tout le monde dehors. Et un rêve de ce que l'on pourrait voir si la fenêtre s'ouvrait, qui n'est jamais ce que l'on voit quand on ouvre la fenêtre.
Alors donc, de spectacle, le spectacle de Vera Montero, j'essaie en même temps de regarder un petit peu le programme qui est très grand et très beau. Le spectacle de Vera Montero a eu lieu déjà une première fois à Porto, c'était le 21 et 22 mai. Et il va avoir lieu à nouveau à Lisbonne le 7 jusqu'au 9 juin.
Oui, absolument. Et il faut absolument, pour ceux qui nous écoutent au Portugal, il ne faut pas manquer. Alors là, il y a un entretien qui est raconté par Rita Natal. C'est un entretien entre Vera Montero et Thiago Rodrigues que j'espère pouvoir passer en intégral ici, si on a le matériel pour un doublage. Hier, Vera Montero et Thiago Rodrigues ont été à l'espace Alcântara pour une conversation sur tout et rien. L'ambiance était décontractée, nous a permis de boire des jus naturels pendant que des objets étaient retirés de sacs et nous racontaient un peu la façon qu'a Vera de ranger la réalité chez elle. Parmi les objets, Vera nous a apporté des choses aussi diverses qu'un tableau avec des instructions pour pousser des murs, Body Pressure de Bruce Nauman, 1974, un livre mur, édition brésilienne de Bartleby, avec une couverture qu'il faut découdre et des pages qu'il faut couper pour désemmurer le texte. Les pieds de biche de son solo, une mystérieuse chose à D.E. Cummings, un poème de Cesarini que nous avons eu le plaisir d'écouter, lu par Tiago Rodrigues. You are welcome to Elsinore. On avait pensé le lire ici, mais il est très long et on l'a déjà lu plusieurs fois à cette antenne.
Bon, donc, on a consacré plusieurs émissions à Cesarini.
Des livres d'esthétique contemporaine, des livres sur le mouvement dada, des rasoirs à main et une machine à épiler. Les murs ont été des thèmes récurrents pendant la conversation. Les objets que Vera Mantero a choisis nous ont parlé des sensations de la chorégraphie comme si l'on poussait des murs, de la sensation de vivre dans un monde où il faut pressionner, insister, pousser pour que les vieilles habitudes ne s'endorment pas dans l'esprit comme d'étranges automatismes. L'exercice de mesurer du pouvoir, le besoin de séduire, la compétition et la convoitise ont été quelques-unes des habitudes citées. Après, elle nous a lu un extrait de Tristan Tzara, nous a parlé également de ses logiques plus spécifiquement dans le monde de l'art et d'une certaine grande fatigue par rapport au circuit restreint de la danse contemporaine. La sensation de créer des travaux pour que le milieu puisse exister, le manque de pouvoir d'affectation de la danse au monde réel, ont été quelques-unes des idées soulevées par ce parcours d'objets, sans que l'on approfondisse cependant les causes ou conséquences de ces questions. La vérité, c'est que dans cette ambiance décontractée de petits repas, le ton a été plus à la célébration qu'à la plainte. Et ainsi, quand Tiago a essayé de suivre les instructions de Norman pour pousser véritablement un mur, Vera nous a chanté « Tout est aussi juste comme deux et deux font cinq » de Caetano Veloso, pendant que Tiago a choisi comme l'un des objets de la conversation les cheveux rebelles de Vera. Vera a choisi les arts rebelles et les livres qu'elle n'a jamais lus comme exemple, dit-elle, d'espoir en puissance. Pendant le déjeuner, il y a eu encore temps pour parler du refus historique de nous regarder humains comme des animaux avec des vêtements, de gens qui repassent leurs cheveux, de gens qui s'épilent le corps, qui domestiquent le corps. On a parlé de métamorphoses et de monstres, de croisements d'hommes et animaux, du monstre dans l'art occidental de Lascaux. On a parlé de l'excès verbal dans le monde. À la fin de la conversation, on est resté avec l'impression que, parfois, parler de façon détachée des choses peut être plus efficace que rester 3 heures à côté parler sous des sujets indomptables.
Voilà, et il y a encore un spectacle dont tu voudrais parler. Je vois que le temps tourne. Oui.
Centro de Dia.
Tu veux en parler maintenant?
On n'aura pas le temps de passer une pause musicale.
On fait une petite pause musicale et on va voir le temps qui nous reste.
Vontade te rompi, tara tabaco, lembra minha comadre de riba, que tem tabaco, como tu sabe hoje. Da vontade te rompi, tara tabaco, lembra minha comadre de riba, que tem tabaco, como tu sabe hoje.
Come on!
contare che rompi tara tabacco le mani accumate la deriva che ton tabacco mo te sabe da montare che rompi tara tabacco le mani accumate la deriva che ton tabacco mo te sabe.
Filigrane imprécis sur Divergence FM, comme je le disais juste avant la pause musicale, le temps passe et court et on est obligé d'interrompre, hélas, Tcheka, puisqu'il nous reste un spectacle dont tu voulais parler.
Oui, Centro de Dia. C'est un spectacle qui se passe dans un centre pour personnes âgées à Lisbonne. Alors c'est Donna Vlasova and Guests, c'est un groupe dominé par Donna Vlasova et qui présente son spectacle au centre social des quartiers de Sey, de la cathédrale, un spectacle divisé en deux parties, le jour et la nuit. Le participant est amené par des couloirs, des escaliers, des chambres et des salles dans un parcours semi-guidé, découvrant l'espace. On découvre aussi les habitants, les personnes âgées qui quotidiennement se dirigent au centre pour y passer leur journée, rentrant chez eux après. Le spectateur est incité à voir des expériences imaginatives et sensorielles dans une proposition qui est également une réflexion sur la ville qui existe et celle qui n'existe pas à partir de sujets comme le vice, le sexe, l'affectivité et les divers temps. Le temps historique, celui des âges qui sont les nôtres, celle où nous avons été ensemble, celui de la performance et celui du spectateur. Donna Vlasova est curieuse, aime voyager, retenir ses amis chez elle, danser, baiser, manger, la belle vie, se promener, l'action politique, essayer de changer le monde. Le projet passe par ici. C'est un projet qui n'est vieux. Il y a ces trois intérêts, le plaisir, la curiosité et la persistance. Gonçalo Amorim s'affirme depuis quelques années comme l'un des meilleurs metteurs en scène portugais les plus importants. Il collabore régulièrement avec Primeiro Sintomas et le Théâtre Ubando. Et en 2007, il a obtenu le prix de la critique pour le meilleur spectacle de l'année, pour la mise en scène de « Baiser et aller faire ses courses » de Mark Ravenhill. Anna Pereira et Pedro Gil ont fondé en 2004 une structure de production et ils font des performances spectacles.
Alors, il nous reste deux minutes pour un alors, dernier
je
spectacle.
Je lis le texte de Rita Natalio. Tarzan est fils de lord anglais, mais a été élevé par des primates en Afrique. Son nom lui a été attribué par des singes et signifie « peau blanche ». Tarzan est également le film préféré de M. Joaquim, l'un des usagers du centre social de Sé, centre de jour de la mairie de Lisbonne. Avec Tarzan, héros déjà des modernes moyens de communication de masse, le jungle africaine entre dans notre vie par la main d'un sexe symbole blanc, masculin et viril à l'apogée de sa jeunesse. Et comme Tarzan, nous l'avons découvert plus tard, Donna Vlasova est... Guests est entré au centre social de Sey en septembre 2009. Comme Tarzan, mais non seulement comme Tarzan, également à son côté, derrière, réfléchissant sa relation avec Chita, développant des images d'Afrique quand l'Afrique était Portugal, murmurant des désirs d'affection et histoires épiques de jeunesse passée, traçant le destin de la rencontre entre deux réalités qui nous construisent séparées et en opposition. Celle de l'occidental et celle de l'autre, celle du jeune et du vieux, celle du défavorisé, celle du solidaire, celle de l'artiste et celle de la communauté, Tarzan littéralement. Tarzan, non, de la relation entre l'animateur, socioculturel, professeur d'expression dramatique, grand sorcier blanc qui arrive et anime le groupe, aidant et offrant de bons moments, mais pérennisant des dépendances. Mais également le nom du moment d'exposition de cette inégalité, que ce soit la grande exposition universelle d'autrefois ou pendant les festivals d'aujourd'hui. Tarzan le sans-peur, mais pas seulement, la jungle, Jane, le tigre, les parents de Tarzan, les indigènes et les spectateurs du film, ceux de maintenant et ceux d'hier, le film complet.
Voilà, on va se quitter là-dessus. On va rappeler juste avant de se quitter qu'on se retrouve donc demain dimanche à 20h au Baloir pour la clôture du Festival des Boutographies OFF. Voilà, Filigrane, c'est terminé pour cette semaine. On reparlera la semaine prochaine de ce festival. En attendant, très très bonne semaine lusophone à tous. Au revoir.
Au revoir.
Filigrana imprecisa. Um toque de calçada e palavras imensas sussurram olhares precisos. Na Divergência FM.
Filigrana imprecis. Poésie, littérature, musique, lignes chaotiques, murmures clamés d'un chant portugais sur Divergence FM.